RFI, 8h30 à Paris, 7h30 à Abidjan. Édouard Dupénoat à la une de votre journal. Le Niger et le Burkina Faso se retirent de l'organisation de la francophonie.
Niamey l'annonce par voie de communiqué. Ouagadougou ne dit rien formellement, mais c'est l'OIF elle-même qui le confirme. Et puis cette triple question de diplomatie à suivre aussi dans cette édition. D'abord l'Europe qui prend une batterie de sanctions économiques ciblées contre le Rwanda. Ensuite la diplomatie des éclats de voix entre la France et l'Algérie. L'objet du courroux, c'est une liste de 60 personnes que Paris voudrait expulser. Et puis la diplomatie à bas bruit entre Dakar et Nouakchott. La diplomate en chef du Sénégal va rencontrer le président Razouani. Mais s'il a été question entre eux du sort des migrants expulsés de Mauritanie, le grand public n'en saura rien. On revient enfin sur ce nouveau coup de sabre annoncé par les États-Unis. Leurs médias internationaux vont être privés de financement. Radio Free Asia et sa cousine européenne. Et bien sûr, la VOA Voice of America, ce sont directement des journalistes africains qui vont être touchés. Le Niger annonce donc qu'il se retire de l'Organisation internationale de la francophonie. Et l'OIF ajoutait hier quelques heures plus tard que le Burkina Faso avait pris la même décision. Ce sont d'abord les autorités de transition de Niamey qui ont annoncé ce retrait. Ouagadougou de son côté ne dit rien formellement, pas d'annonce non plus côté malien. Troisième membre de l'AES, Alliance des États du Sahel. Serge Daniel, correspondant régional.
Dans un courrier adressé aux diplomates en poste à Niamey, le ministère nigérien des Affaires étrangères annonce le retrait du pays de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. C'est une décision souveraine, précise la missive. Selon l'OIF, le Burkina Faso, pays voisin, a déjà pris une décision similaire. Les deux pays dirigés par des putschistes sont dans une alliance des États du Sahel avec un troisième pays, le Mali, qui pourrait se prononcer rapidement sur le sujet. Le trio ne cache pas sa volonté de prendre davantage à cette distance vis-à-vis de la France, ancienne puissance coloniale. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso avaient déjà été suspendus de l'organisation après les coups d'État qui ont renversé des présidents démocratiquement élus. Ces pays avaient déjà rompu leur coopération militaire avec la France en demandant le départ de chez eux des troupes françaises. L'Organisation internationale de la francophonie regroupe 93 États ou gouvernements. Elle apporte à ses États membres un appui dans l'élaboration ou la consolidation de leur politique et mène des actions conformément à ses principales missions, promouvoir la langue française et la diversité culturelle et linguistique. Serge Daniel, Dakar, RFI.
Réaction de l'OIF dans les heures qui ont suivi, c'est une décision que l'on déplore, mais que l'on respecte, nous dit sa porte-parole. L'OIF considère qu'elle est peut-être un dommage collatéral d'une situation géopolitique qui la dépasse. De nouvelles sanctions européennes annoncées hier, essentiellement à l'encontre de personnalités rwandaises. Elles ont été dévoilées après une réunion des ministres des Affaires étrangères des 27. 9 personnes sous sanction, gel des avoirs, interdiction d'entrée sur le territoire européen. Une entreprise concernée également, toute accusée de contribuer à la poursuite du conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Les 9 personnes sont toutes rwandaises ou congolaises, membres du M23 ou généraux de l'armée rwandaise, à une seule exception, Pierre Benazet, en l'occurrence Francis Kamanzi.
Francis Kamanzi est le directeur de RMB, l'Office rwandais des mines et des hydrocarbures. Selon l'Union européenne, les minerais continuent d'être exploités dans les zones contrôlées par le M23 et font l'objet d'un trafic vers le Rwanda où ils sont mêlés à la production rwandaise. Au centre du collimateur des pays qui voulaient des sanctions économiques figure un protocole d'accord signé entre la Commission européenne et le Rwanda pour permettre la fourniture de ce que les Européens classent parmi les matières premières critiques, par exemple coltan, nickel, cobalt ou tungstène. Le ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévost, prédit la mort de ce protocole d'accord qu'il désigne sous son acronyme anglais MOU.
C'était important qu'il y ait de la force symbolique dans les sanctions édictées, des responsables d'entreprises, notamment en lien avec les minerais. Vous savez que nous avons plaidé aussi pour qu'il y ait une suspension du MOU avec le Rwanda s'agissant des minerais précieux et rares. Dès lors que la personne qui est un peu le grand coordinateur est lui-même concerné par les sanctions, ça veut dire qu'il n'y a plus de possibilité de veiller à la mise en œuvre de ce MOU.
La Commission européenne n'a pour l'instant annoncé qu'une révision de son protocole d'accord sur les minerais rares avec le Rwanda, mais les 27 la mettent désormais au pied du mur pour y mettre fin. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
Dans la foulée de ces annonces, Kigali annonçait la rupture de ses relations diplomatiques avec la Belgique. Elle est accusée d'être la principale motrice de ces sanctions financières. Peu de temps après l'annonce de ces sanctions, l'AFCM23 faisait savoir que sa délégation ne se rendrait pas aujourd'hui à Luanda pour les discussions autour d'un cessez-le-feu. Le mouvement armé, soutenu par le Rwanda, annule donc sa participation aux rencontres prévues dans la capitale angolaise. Elles auraient été les premières négociations directes avec Kinshasa. Les autorités congolaises semblaient prêtes à franchir le pas bientôt, 3 mois après le début de l'offensive du groupe dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Sur le papier donc, tout semblait bouclé. Qu'est-ce qui peut avoir fait dérailler cette opération, Patient Ligodi?
Dès l'annonce de cette réunion, des signaux indiquaient déjà que la date du 18 mars serait compliquée à tenir. Le premier accro, l'AFCM23 affirmait avoir découvert le communiqué de la médiation sur les réseaux sociaux. Ensuite, l'invitation officielle envoyée par l'Angola est arrivée, mais elle était adressée à Bertrand Bisimwa en tant que président du M23 et non à Corneille Nanga, le coordonnateur de l'AFC. Un détail loin d'être anodin, car dans sa réponse, Bertrand Bisimwa a tenu à clarifier la position du mouvement. Dans une lettre adressée hier au chef de la diplomatie angolaise, il rappelle que le M23 fait partie intégrante de l'AFC et que seule cette dernière est habilitée à mener les négociations directes. Puis, il y a eu les sanctions européennes. Tombées hier, elles visent notamment plusieurs dirigeants de l'AFC M23. Une nouvelle qui, selon le mouvement, n'a fait qu'envenimer la situation. Dans son communiqué, il accuse, je cite, « certaines institutions internationales de saboter les efforts de paix et de rendre impossibles les discussions ». Alors, cette réunion est-elle seulement reportée? Rien ne semble l'indiquer pour l'instant. Le mouvement affirme que dans ces conditions, la tenue des pourparlers est devenue impossible. Il annonce donc mettre fin à sa participation au processus.
Patient Ligodi. Des frappes aériennes il y a 24 heures au Soudan du Sud. L'armée revendique d'avoir frappé Nassir, ville du nord-est du pays, bastion de la milice dite de la White Army, un groupe armé réputé proche du vice-président Riek Machar. Au moins 21 morts. Et par ailleurs, Djouba confirme aussi que l'armée ougandaise est bel et bien présente sur son territoire. Au Soudan voisin, ce sont des frappes attribuées au FSR qui font 10 morts au Bamo, à Omdurman, ville mitoyenne de Khartoum. Et cela alors que ce week-end, le général Emeti promettait une intensification de la guerre qui dure depuis bientôt 2 ans, ainsi qu'une multiplication des fronts militaires. Des tensions diplomatiques maintenant qui, une fois encore, s'étalent par voie de presse entre la France et l'Algérie, avec ce communiqué de la diplomatie algérienne qui fait part d'une fin de non-recevoir à la demande de Paris d'expulser une 60aine d'Algériens de son territoire. Et puis le ministre français de l'Intérieur qui embraye sur le réseau X. Tout semble fait pour souffler sur des braises que le chef de l'État français semblait pourtant tenter d'éteindre discrètement, Paul Langerie.
Selon le communiqué, la liste de ressortissants algériens faisant l'objet d'une procédure d'éloignement du territoire français avait été remise le 14 mars au chargé d'affaires algérien à Paris. Un acte réalisé hors du canal d'usage, proteste l'Algérie, qui précise que pour ce genre de procédure, les demandes doivent être formulées au consulat algérien par les préfectures françaises et ce, au cas par cas. La réponse du ministre français de l'Intérieur ne s'est pas fait attendre. Sur X, Bruno Retailleau dit regretter que l'Algérie refuse d'appliquer le droit international avant d'ajouter qu'une riposte poste gradué sera appliqué. Sur France Inter, il a ainsi annoncé hier la suspension de l'accord de 2007 pour l'exemption de visa aux détenteurs de passeports diplomatiques. À la fin du mois de février, le Premier ministre François Bayrou avait menacé de dénoncer des accords de circulation entre les deux pays, donnant un délai de 1 mois à 6 semaines à Alger pour réexaminer en particulier un traité permettant aux Algériens d'entrer plus facilement sur le territoire français. Pour apaiser la situation, Emmanuel Macron avait, au début du mois de mars, voulu arrondir les angles, se disant favorable non pas à dénoncer, mais à renégocier cet accord.
Et ces deux diplomaties extrêmement discrètes cette fois entre le Sénégal et la Mauritanie. Il y aurait pourtant matière à crispation bilatérale depuis une dizaine de jours, depuis que plusieurs ONG déplorent les opérations jugées inhumaines de refoulement de migrants en Mauritanie, notamment vers le Sénégal. La chef de la diplomatie de Dakar était à Nouakchott hier. Elle y a rencontré directement le président Razouani. Mais les termes officiels de cette rencontre sont d'une prudence de renard, Juliette Dubois.
Yacine Fall, la ministre des Affaires étrangères sénégalaise, a remis une lettre du président Bassirou Diomaye Faye au président mauritanien Mohamed Ould Razouani. À la sortie de la rencontre, elle affirme avoir apporté un message de solidarité et de salutation en ce mois de Ramadan. Yacine Fall explique aussi avoir discuté de la situation, je cite, de solidarité et d'amitié entre les deux pays, ainsi que de la nécessité de renforcer cette situation au niveau humain, économique et social. Pas un mot en revanche sur la promesse faite par la Mauritanie et relayée par la ministre la semaine dernière de transmettre les modalités d'obtention de la carte de résidence mauritanienne pour les Sénégalais. Pourtant, ce déplacement arrive alors que le gouvernement sénégalais s'était montré indigné ces dernières semaines par les expulsions de migrants en situation irrégulière, condamnant le traitement réservé à ses ressortissants et appelant au respect de leurs droits. Nouakchott, de son côté, justifie ses actions comme étant des mesures de routine destinées à régulariser la situation des migrants et à lutter contre le trafic de personnes. La ministre sénégalaise avait également prévu de rencontrer son homologue mauritanien ainsi que des représentants de la communauté sénégalaise à Nouakchott. Elle a affirmé continuer à travailler en direction du renforcement des relations entre les deux pays. Juliette Dubois, Dakar, RFI.
Ce sont enfin des médias au bord du dépôt de bilan, les médias internationaux publics américains. La brigade du Doge d'Elon Musk fait mettre en congé les personnels de Radio Free Asia, Radio Free Europe et Voice of America. Élément inutile de la bureaucratie fédérale, dit le décret présidentiel qui fait tomber ce couperet. Ce qui fait bondir Anne Bocandé, directrice éditoriale de Reporters sans frontières. Elle rappelle que la VOA est une radio particulièrement écoutée sur le continent africain, notamment via ses programmes en langue locale.
Les productions sont à l'arrêt. On le voit sur le continent africain, en effet, avec de la musique qui est diffusée sur la radio et avec aucune nouvelle production aujourd'hui de produite, en tout cas. Donc l'effet est déjà immédiat. Il faut rappeler que ce média a des émissions non seulement en français, mais aussi dans beaucoup de langues africaines, que ce soit en Haoussa, en Kiswahili, en Bambara, en Wolof, donc vraiment à destination de l'audience africaine. Donc ça va faire évidemment un vide de ne plus pouvoir avoir accès à ce type de contenu. C'est une attaque directe aussi au pluralisme de l'information dans énormément de pays. Et puis, Voice of America travaille avec des centaines de journalistes locaux dans les différentes zones en Afrique. Donc là aussi, c'est une mise en danger pour énormément de journalistes. Et puis aussi, VOA en Afrique, c'est aussi des émissions spécifiques qui sont reprises sur des médias partenaires africains. Donc c'est aussi des programmes déstabilisés aussi sur des médias africains directement.
Anne Bocandé avec Pierre Firsion. Et pour aller plus loin sur la place qu'occupe la VOA dans les paysages audiovisuels du continent, vous retrouvez sur RFI.fr l'entretien que nous accordait hier le professeur Étienne Damom. RFI à Paris, 8h42, Andréane Mellard, c'est à vous.
Merci Edouard, bonne journée.